Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mauni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Organisation internationale de la francophonie, l'AS, claque la porte sur le thème du Grand Dialogue de ce soir, promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique, la paix, la démocratie et les droits de l'homme, appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche, développer la coopération économique au service du développement durable. Ce sont entre autres missions qui sont attribuées à l'Organisation internationale de la francophonie. Cependant, le pays de la Confédération des États du Sahel estime que l'organisation s'était éloignée de ses objectifs de promotion de la coopération culturelle et technique pour se muer en un partial instrument de manipulation politique, d'où le retrait de ces trois pays. Que comprendre de cette sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger de l'OIF? Pour en parler, nous avons deux invités, Madame Sylla Fatoumata Hamma Cissé, directrice nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales, Dr Abdoul Sogo Dogo, enseignant-chercheur, vice-président de la faculté de sciences administratives et politiques. À la présentation, je suis Brana Kilo Maïga, invité, auditeur, téléspectateur, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Ce 20 mars marque la journée internationale de la francophonie sous le thème « Je m'éduque, donc j'agis ». Ce thème fait référence à l'éducation au sens général, un accès à une éducation de qualité pour tous. À quelques heures de cette célébration, les pays de l'AES ont décidé de se retirer de l'organisation. Une question de tour de table. Madame, comment se porte aujourd'hui l'espace francophonie?
Bonjour Monsieur Méga, merci pour cette opportunité que vous m'offrez pour m'avoir invité à ce plateau. Et comment se porte la francophonie? Ça c'est une grande question. Je dirais que la francophonie se porte mal.
Comment?
Mal dans la mesure où nous avons vu que, ne serait-ce qu'hier seulement, notre pays s'est engagé à quitter cet espace, à quitter l'OIF. Eu égard à plusieurs raisons. Ces raisons, on va les évoquer plus tard.
D'accord. Je me retourne vers Dr Sogo Dogo. Comment se porte, selon vous, l'espace francophonie?
Bon, difficile à dire parce que son état, comment l'apprécier, sur la base de quels critères? Vous voyez que les réponses peuvent être d'autres. Peuvent être très diverses. Je pense qu'une organisation se comporte généralement comme une personne humaine. Quand vous êtes amputé d'une partie de votre corps, naturellement, vous allez ressentir de la douleur. En me basant sur cet aspect-là, je peux dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas peut-être le plus beau jour de la francophonie, parce qu'il vient de perdre quand même trois pays qui ont été au cœur de sa création. D'ailleurs, même la francophonie a vu ce jour à Niamey. Et l'un de ces accords majeurs a été signé à Bamako sur la démocratie. Donc, ce n'est pas forcément le plus beau jour. On ne peut pas prétendre que la francophonie va bas des ailes, en tout cas que c'est le meilleur jour qu'il a eu à connaître.
D'accord. Madame, quel rôle joue la francophonie, l'organisation de l'Organisation internationale de la francophonie pour le Mali et pour l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest?
On sait que l'une des missions majeures de la francophonie, et de l'OIF, disons, c'est de s'engager en permanence à construire et consolider la démocratie en déployant dans ces États et gouvernements qui sont membres des actions de médiation, de remédiation, en déployant aussi des efforts d'appui au dialogue politique. Et la francophonie devrait aussi s'évertuer à mobiliser l'expertise francophone pour que chaque fois qu'il y a des problèmes au sein des États membres, des gouvernements membres, qu'ils puissent vraiment trouver une solution vraiment pérenne. Mais hélas, qu'est-ce qu'on constate? On constate que vraiment cette mission dont je viens de parler n'est pas vraiment tout à fait accomplie. C'est pas accompli dans la mesure où les différentes crises que nos pays ont traversées. Je parle des pays de l'AES, le Mali, le Niger, le Burkina. On n'a pas vu vraiment, on n'a pas senti vraiment l'OIF, la francophonie, à nos chevets. Au contraire, on les a sentis négativement. On a senti que ce sont des gens qui sont là pour défendre d'autres intérêts et non pas les intérêts de ces pays qui étaient...
On va en parler plus tard, mais concrètement, vous êtes la directrice nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales.
Oui.
Concrètement, qu'est-ce que l'OIF a apporté à votre structure notamment?
Bon, on sait que depuis sa création, depuis les années de 1970, il y a eu un certain nombre d'expérimentations dans le cadre de l'éducation, telles que l'approche par compétences. Cette approche par compétences qui a essayé d'introduire certaines langues, quatre langues nationales dans le circuit scolaire au niveau du fondamental 1 et 2, ça n'a pas tellement abouti. Ça n'a pas abouti parce que c'était en phase d'expérimentation et malheureusement, cette expérimentation a été un échec lamentable pour le Mali parce qu'elle n'a pas connu de généralisation. Et il y avait certaines parties du Mali qui étaient dans cette phase, les régions notamment dans les régions de certaines zones de Bamako, dans les régions de Ségou. Mais d'autres régions n'ont pas senti, d'où vraiment l'échec de cette expérimentation. Donc je dirais que au niveau dans le système éducatif, même si la francophonie a voulu vraiment essayer de faire semblant, de faire prévaloir vraiment les langues, nos langues, ce n'était qu'une façade. Et c'est pourquoi c'est tout ce qu'ils ont eu à faire comme approche a vraiment échoué jusque-là.
Donc faut-il rester ou quitter alors?
Eh bien, il faut quitter. Il faut quitter et qu'on s'assume. Il faut que le gouvernement du Mali, l'État du Mali s'assume. Et l'État s'est assumé d'ailleurs, parce qu'on a vu avec la constitution du 2023, la constitution à travers son article 31 a dit que nos langues nationales sont les langues officielles du Mali et que le français reste une langue de travail. Langue de travail, ça veut dire qu'on peut travailler avec le français. On veut travailler avec l'anglais. Et même, ce n'est pas exclu qu'on choisisse parmi nos langues officielles, qui sont vraiment des langues à valoriser, des langues qui sont d'ailleurs valorisées, on peut choisir une langue qui sera vraiment une ou bien plusieurs langues de travail.
Comment cette sortie de l'OIF pourrait apporter un appui à la valorisation de nos langues nationales?
Mais nous, on l'a salué quand on a appris que vraiment le Mali est sorti de la francophonie. On s'est dit que c'est vraiment une aubaine. Le département de l'éducation va maintenant trouver les voies et moyens pour qu'on introduise réellement nos langues, qui sont nos langues officielles, dans le système scolaire depuis le fondamental jusqu'au niveau secondaire et même pas pourquoi le supérieur. Parce qu'on est en train présentement de créer une filière alphabétisation et éducation non formelle à l'ENSUP. Donc on va s'atteler à ça et c'est vraiment salutaire pour nous. Ouais. On va trouver les voies et moyens pour y parvenir.
Docteur Abdoul Sogodogo, vous êtes enseignant-chercheur. On sait que l'OIF apporte un appui à l'éducation, à la formation, à l'enseignement supérieur et à la recherche. Concrètement, qu'est-ce que l'OIF a apporté pour l'enseignement supérieur malien?
Bon, difficile de le dire de ma position d'enseignant parce que je n'ai pas le privilège de diriger le programme de l'OIF Nuit au Mali ou d'en être un responsable concrètement. Je parle là à partir de ce que j'observe moi-même et en tant que enseignant à l'université. Effectivement, l'OIF accompagne l'université dans la formation des enseignants. Je peux témoigner de cela pour avoir bénéficié du programme de formation au sein de l'OIF sur la colline. voilà, sur les formations, sur les, en termes d'enseignement, des questions de pédagogie. Mais il y a aussi ce cadre d'échange des étudiants qui arrivent à, des enseignants qui arrivent à avoir des stages dans le cadre de l'OIF, l'accès à la ressource numérique à travers l'OIF. Donc, il y a pas mal d'activités de ce genre. Il y a des clubs même OIF qui sont au sein des universités maliennes et qui participent à des activités, voilà, sous-régionales et même internationales. Donc, l'OIF est présent à l'université à travers l'AOIF, ce qui est l'agence universitaire de la francophonie. C'est justement cette agence-là qui est en lien avec les universités maliennes et qui a des activités avec nos facultés. Donc, au-delà de ça, il m'est difficile de faire un bilan, voilà, de sa création jusqu'au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce que l'OIF a concrètement apporté? Mais peut-être que ce qui est évident, c'est que les États, quand ils intègrent une organisation internationale, c'est naturellement à la recherche de bénéfices partagés, c'est-à-dire qu'ils ont des intérêts communs à partager. Et cet intérêt commun entre différents pays d'anciennes colonies françaises, c'est d'abord cette culture française, à travers surtout la langue française qu'ils partagent, qui est le moyen d'accès au savoir universel dans ces pays-là. Et ces pays se sont organisés autour de cette organisation pour promouvoir une diplomatie multilatérale. Et à un moment donné, quand un État pense que cette coopération devient toxique pour lui, donc il n'en tire pas profit, mais qui, au contraire, cette organisation est peut-être de nature à lui causer préjudice, on comprend que l'État en question puisse se retirer. Et cela me semble être le cas des pays de l'AIS, qui sont tous sous sanction au niveau de l'OIF en raison des événements, notamment précisément l'arrivée des militaires au pouvoir, donc qui a occasionné des sanctions. Et depuis que ces sanctions sont intervenues, ces pays ne bénéficient plus, à ce que je sache, les avantages supposés qu'ils devraient avoir dans le cadre de cette coopération. Donc, dans le cadre de l'OIF. Et à un moment donné, il décide de se retirer. Et ce retrait peut aussi être interprété comme un choix d'aller vers un renforcement de la souveraineté de ces pays-là au plan culturel, mais surtout linguistique, parce qu'on a vu au Burkina, tout comme au Mali, ces deux pays qui ont récemment révisé leur constitution ont tous promu les langues nationales comme étant leurs langues nationales comme étant justement des langues officielles. Et le français, comme l'a dit tout à l'heure madame, voilà, est resté comme langue de travail.
Et mais est-ce à dire quitter l'Organisation internationale de la francophonie qui fait la promotion de la langue française, est-ce à dire qu'on sort maintenant, on abandonne complètement la langue française, ou comment ça va se passer? Le fait de quitter l'organisation, est-ce que c'est synonyme d'abandon de la langue française?
C'est une option, parce que ces trois pays ne sont pas les premiers dans l'histoire à quitter la francophonie. Il y a déjà le Rwanda qui, par le passé, a quitté la francophonie et a même intégré, je crois bien, le Commonwealth, si je ne me trompe pas, et qui a adopté par la suite l'anglais comme langue d'éducation, comme langue
de travail.
Voilà. Le Rwanda a fait ça. Ça n'a pas empêché le Rwanda qui, par la suite, a travaillé à ses relations, ou du moins il y a eu un travail dans plusieurs sens, et qui revient de plus en plus au sein de l'organisation. Parce que le retrait d'un État, d'une organisation internationale, il faut le comprendre comme étant une manifestation, une contestation en fait, parfois de certains agissements de l'organisation ou une protestation. Voilà. À un moment donné, quand l'État, qui est dans une situation particulière, sent que ses intérêts particuliers ne sont pas pris en charge par l'organisation ou que l'organisation même devient un frein à un moment donné, il peut s'en le noyer. On a vu dernièrement que le Mali, ces mêmes pays se sont retirés de la CEDEAO. On a vu des pays même qui, par le passé, se sont retirés des organisations spéciales des Nations Unies, telles que les États-Unis se sont retirés à un moment de l'UNESCO. Voilà. Donc, ça arrive qu'un État se retire d'une organisation internationale. Mais attention, ce n'est pas définitif. Un État peut se retirer d'une organisation et revenir dans cette même organisation si peut-être les raisons, ou en tout cas ce qu'il avait reproché à l'organisation, voilà, semble être suffisamment prise en main. Voilà.
Les techniciens me font signe que notre troisième invité est enfin disponible, professeur Mamadou Adja, directeur général adjoint de l'Institut de pédagogie universitaire. Bonsoir, professeur Adja. Ok. Il n'est pas encore là. D'accord. Tout à l'heure, on parlait de ce que l'OIF fait au niveau des universités comme appui à la formation. Cette sortie aura-t-elle des conséquences sur l'appui à la formation des enseignants du supérieur?
Mais, il faut dire déjà, comme je le disais tout à l'heure, l'Agence universitaire de la francophonie appuie les universités à plusieurs niveaux. Tout à l'heure, je disais en termes de formation, de stage, et pour les enseignants et pour les étudiants. Mais il y a aussi un accompagnement vis-à-vis de la Bibliothèque nationale et en termes d'accès aux ressources, hein, aux ressources numériques et physiques. Il y a le centre de lecture publique au sein de cette bibliothèque qui bénéficie de la Bibliothèque nationale, qui bénéficie d'un appui de la francophonie à travers l'AUF. À chaque fois, quand on se retire d'une organisation, ça va de soi qu'il faut, après, qu'il y ait un travail pour prendre en charge peut-être les aspects ou les domaines dans lesquels l'organisation intervenait. Mais je ne pense pas que... voilà que l'université malienne va s'écrouler parce qu'on s'est retiré de l'AIF. Non, je ne suis pas en ces termes-là qu'il faut carrément le voir, quoi. Ou peut-être que la Bibliothèque nationale va fermer demain parce qu'on s'est retiré de l'AIF. Non. Mais peut-être que c'est beaucoup plus subtil que ça, parce que c'est des espaces assez tellement intégrés et parfois il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup d'examens assez profonds pour dire jusqu'à quel degré on peut en être influencé. Mais je rejoins madame quand elle dit que c'est à l'État de s'assumer. S'assumer parce que quand on sort de ces organisations, évidemment, il y a beaucoup d'autres travail, il y a un autre travail à faire derrière. Par exemple, je vois là la promotion des langues nationales. Parce que à l'université, pour nous, il s'agit aujourd'hui de comment faire pour traduire le savoir universel en nos langues nationales. Par exemple, les mathématiques, la biologie, le droit, tout ça. Voilà, comment faire en sorte que voilà, les gens aient accès à tout ce que l'on sait, ce qu'on appelle les connaissances universitaires, dans ces langues. Comment faire de ces langues des langues de formation au niveau de l'éducation de base, c'est-à-dire depuis la petite enfant, du jardin d'enfant jusqu'à l'université. C'est comme, par exemple, quand vous prenez l'exemple sur les pays arabes, vous trouvez que dans beaucoup de pays, je cite par exemple l'exemple du Maroc, vous pouvez faire tout votre parcours en français si vous le voulez, depuis l'école de base jusqu'à l'université, ou le faire en arabe si vous le voulez. Voilà, parce que tout est là, tout est disponible pour pouvoir faire cela. Voilà, donc il y a un travail sérieux à faire pour que toutes les connaissances soient traduites dans ces langues-là et que les gens soient suffisamment préparés, outillés, que ce soit les enseignants et les élèves, pour pouvoir justement avoir des programmes d'enseignement supérieur, de base, fondamentale, etc. Mais c'est un projet très gigantesque et qui ne se font pas au bout de quelques années. Donc c'est tout un processus qui va peut-être se mettre en place. Voilà. Est-ce que ce retrait va décanter ou en tout cas être le catalyseur de ce processus-là, je n'en sais rien, mais bon, voilà.
Madame, vous l'avez dit, hein, les autorités doivent les autorités doivent s'impliquer davantage. Aujourd'hui, on est sorti, le Mali est sorti de l'OIF, et après, qu'est-ce qui va se passer? Va-t-on abandonner la langue française au profit des langues nationales ou une autre langue est prévue?
Et pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat, on ne peut pas abandonner la langue française pour d'autres langues. Vous savez que le Mali a 13 langues officielles, plus l'arabe. Les langues qui sont officiellement reconnues, qui étaient des langues nationales qui sont devenues officielles, sont 13. Et nous avons des aires linguistiques. Chaque aire linguistique, en principe, doit être préparée à valoriser sa langue. Ça veut dire que ces 13 langues officielles ne se prévalent. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on va quitter le français pour adopter le Bamanankan comme langue de travail ou bien langue d'étude. Il faut que les aires linguistiques par exemple, fassent valoir leur langue du terroir comme langue d'étude. Par exemple, c'est un exemple que je prends. Si on prend le Bomou, l'ère linguistique où le Bomou est parlé, on verra que c'est des aires qui sont très, très conservateurs. Donc, il faut que le Bomou soit écrit, soit lu, que tous les documents d'études soient traduits dans cette langue pour leur aire linguistique. Et à marge de ça, ils peuvent faire d'autres options. Le français peut être une option, le Bamanankan peut être une option. Là, ça, c'est vraiment langue une, deux, sur lesquelles ils peuvent travailler. Et etc. Si on prend le tamashek, les aires linguistiques tamashek, la même chose. On ne peut pas leur imposer, par exemple, prenez le Bamanankan comme langue officielle. Non. Il faut que nous valorisons toutes les langues que nous avons reconnues comme étant des langues officielles. Et présentement, le département de l'éducation en a les compétences humaines et la technicité qu'il faut. Nous avons trois structures, l'Académie malienne des langues, la Direction nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales, le Centre national des ressources de l'éducation non formelle, qui sont en train de travailler sur la faisabilité de ça. Les langues seront non seulement des langues d'études, mais aussi des langues de travail. Et à marge, on peut continuer à travailler avec le français. On ne peut pas, présentement, on ne peut pas automatiquement dire que puisqu'on a quitté l'OIF, la francophonie, on va introduire nos langues comme langue d'études ou bien comme langue de travail. Il faut que l'État mette les moyens pour que cela soit. La technicité est là. Et si on prend aussi, par exemple, le cas spécifique des langues qui sont déjà instrumentées, on verra qu'il y a parmi les 13 langues, certaines langues qui sont déjà très prêtes, fin prêtes à être étudiées, à être des instruments de travail, des instruments d'études, mais d'autres sont encore à revoir, tels que le Maninkakan, le Kasongakan et d'autres langues qui sont toutefois des langues officielles, mais qui restent toujours à retravailler. Donc il faut que, s'il y a une volonté politique très forte, telle qu'elle a été pour avoir pris à travers la Constitution que nous avons déjà 13 langues officielles, si cette volonté se poursuit et qu'on dise que désormais ce sont nos langues qui seront des langues d'études et des langues de travail, vraiment le département de l'éducation va s'y mettre et on trouvera les moyens qu'il faut pour essayer qu'on nous donne d'abord les moyens qu'il faut.
Mais dans un an ou dans deux ans, que va devenir donc la langue française? Elle sera complètement abandonnée?
Non. On ne va pas quitter. Nous sommes dans un monde global. Nous sommes dans une mondialisation, une globalisation. Et on est obligé d'aller avec les concerts de la nation. Des autres nations, on est obligé de travailler avec d'autres nations qui ne parlent que, qui ont comme interférence avec nous la langue française. Donc on ne peut pas abandonner le français. On va l'utiliser comme langue de travail, comme langue avec laquelle on va communiquer avec les autres États, avec les autres pays, mais qu'on mette à l'intérieur l'accent sur vraiment la langue officielle. Et à marge, il y aura le français qui sera la langue seconde. C'est une proposition. Ce n'est pas une proposition du ministère, mais une proposition que je donne, par exemple.
Mmh. Au cas où on abandonnerait le français, quelle langue pourrait être la langue de travail qui pourrait être comprise par les Maliens lambda?
Il n'y a pas une seule langue qui peut être utilisée comme langue de travail. C'est ce que j'expliquais tantôt. J'ai dit que les 13 langues officielles ont leur aire linguistique.
Oui, mais on ne peut pas utiliser quand même en langue de travail toutes les langues nationales, les 13 langues dont vous parlez. Il y a une langue comme la langue française qui est la langue de travail actuellement. Est-ce qu'on va vers l'anglais ou le russe?
Ça, c'est vraiment les autorités qui vont décider de ça. Nous, à la DNFLN, on ne peut pas se prononcer sur ça. On se prononce sur la valorisation de nos langues officielles. Qu'on nous donne vraiment, l'État nous donne les moyens de valoriser ces langues qui sont vraiment très prêtes à être utilisées depuis au niveau de l'éducation préscolaire, au niveau du fondamental, au niveau du secondaire, général et professionnel, et même au niveau du supérieur.
D'accord.
Le professeur est là, on est prêt à aller au supérieur aussi.
D'accord. Si on doit utiliser une langue étrangère comme une langue de travail, ça sera laquelle selon vous, laquelle vous souhaiterez? Est-ce l'anglais ou le russe?
Déjà, ça c'est une question compliquée parce que utiliser une langue de travail, c'est tout un travail à la base aussi. On a vu l'expérience du Rwanda. Quand le Rwanda a subitement basculé à l'anglais, ça n'a pas été facile. J'ai la chance d'avoir des amis là-bas, des camarades que j'ai connus à l'université et qui me racontaient parfois leur expérience. Et demain, on a pris les professeurs au bout de quelques mois pour faire des cours, voilà, accélérer en anglais, et ils devraient être tout de suite capables d'enseigner en anglais. Et donc, ce n'était pas facile. Ce n'est pas facile. Ça compromet la transmission des connaissances parce que, attention, la langue n'est pas quelque chose de si simple que ça. La langue cache beaucoup de choses. La langue cache toute une culture, une façon de voir le monde. C'est un instrument à l'université pour nous de transmission de connaissances. Mais aussi, la langue est un enjeu de pouvoir. Donc, beaucoup de choses se cachent derrière la langue. Donc, si vous décidez de passer à une autre langue qui n'a pas une grande appropriation au sein des populations, vous créez là un autre problème, parce que ça va être exploité par certains comme instrument de domination. Mais ça peut aussi créer des problèmes de fonctionnement, de dysfonctionnement, parce que voilà, si les gens n'ont pas accès à cette langue, voilà, ils vont avoir du mal à le manipuler, à faire valoir leurs droits, à travailler dedans. Donc, d'accord, c'est compliqué.
D'accord.
Donc, je pense que s'il faut aller vers une autre langue, ça va demander au gouvernement de mener beaucoup de réflexions et de préparer beaucoup. Mais je ne le sens pas. Je ne le sens pas parce que je ne vois pas de signe précureur qui nous annonce qu'on risque d'aller vers une autre langue de travail qui n'est pas le français et qui n'est pas nos langues nationales déjà. Parce que je le dis en me référant à la dernière constitution de 2023. Elle a pris le soin de parler du français. Elle aurait pu se taire. Mais la constitution a parlé, ça veut dire que quand même il y a une volonté de garder, en tout cas pour longtemps, jusqu'à ce que peut-être le Mali ne soit prêt, de garder le français comme langue de travail.
D'accord. Je me dis que donc j'agis sur ce thème de la journée internationale de la francophonie ne pourrait être célébré au Mali car le pays de l'AES se sont retirés de l'OIF ce 18 mars 2025. La confédération de l'AES déplore que l'OIF soit devenu un instrument de manipulation politique. En quoi, selon vous, l'organisation est devenue un instrument de manipulation politique?
Alors, il y a un débat classique en relations internationales. Vous avez des auteurs comme Hans Morgenthau, ils sont nombreux, à avoir considéré ce qu'on appelle les réalistes en relations internationales, qui considèrent que les États ont des intérêts antagonistes, contradictoires, et qu'il n'y a pas un arbitre sur la scène internationale pour faire régner l'ordre. C'est pourquoi on dit que les relations internationales sont par nature anarchiques. Ceux qui s'inscrivent dans cette logique ont tendance à considérer les institutions internationales, telles que, peu importe, toutes les organisations internationales, ils ont tendance à les considérer comme étant des instruments de domination entre les mains des plus puissants. Parce que la contradiction des intérêts fait qu'il va être difficile que l'organisation puisse en même temps répondre de façon satisfaisante aux intérêts de ses acteurs divergents en termes d'intérêt, en termes de vision parfois. Donc, si on s'inscrit dans cette logique, on peut comprendre. Un État qui est sanctionné par une organisation dont il est lui-même membre fondateur, et pendant une période où il vit une période de difficulté, où pour lui, il s'attend à ce qu'il soit aidé, appuyé par l'organisation. Notamment, je fais là allusion au pays de l'AIF. De leur point de vue, l'OIF devrait être à leur côté pendant cette période de crise pour les accompagner à un retour de la normalité, c'est-à-dire le retour de la paix dans leur pays et les aider à la reconstruction de leur pays. Mais ils se sentent d'une certaine façon surpris, voilà, de la sanction de l'OIF malgré peut-être les avancées en termes de réorganisation à l'intérieur, parce qu'il faut reconnaître que les trois pays sont allés à des assises nationales qui les ont permis de discuter avec les populations et de dégager peut-être des consensus sur lesquels ils devraient engager des actions politiques.
Mais est-ce que, selon vous, cette sortie est opportune? C'est le moment de sortir?
Bon, difficile d'apprécier l'opportunité, parce que sur la base de quoi l'apprécier, ce n'est pas toujours évident. Les États ont la latitude et les États sont dirigés par des gouvernements. Donc c'est le gouvernement qui apprécie, qui a ses propres grilles d'appréciation et à un moment donné qui décide d'adhérer non seulement à une organisation, mais de s'en retirer aussi. Donc l'appréciation d'opportunité va dépendre de voilà, qu'est-ce que vous considérez, qu'est-ce que vous mettez en avant et qui semble le plus important pour vous. Donc c'est des questions très difficiles à apprécier. De mon point de vue personnel, je pense que de plus en plus, on est dans un monde assez intégré et globalisé. Et il faut peut-être parfois avoir cette capacité stratégique d'apprécier parfois les alliances qui sont toxiques, à dire toxiques, en ce sens qu'en un moment, il y a certaines alliances desquelles vous tirez peu de profit ou vous n'en tirez pas du tout. Et ces alliances-là, quand ils sont de nature à vous ralentir dans votre dynamique de croissance ou de développement, il faut avoir le courage parfois de s'en défaire. Mais il y a d'autres alliances, parfois vous recevez des coups, mais il faut avoir le courage voilà, de se préparer, de résister et d'évoluer au sein de ces alliances parce que vous êtes conscient que l'alliance vous rapporte beaucoup. Par exemple, si on prend l'exemple sur récemment nos pays, les trois pays de l'AIF qui se sont retirés de la CEDEAO, mais ces pays continuent à être membres de l'UEMOA, ces pays continuent à être membres de l'Union africaine, ils continuent, d'ailleurs même, ils ont même créé une autre alliance. Donc, vous voyez, donc en fait, c'est les gouvernants du jour qui sont au parfum un peu de la réalité politique de leur environnement immédiat, qui apprécie, voilà, quels peuvent être les meilleurs choix stratégiques pour eux en connaissance de leurs atouts, de leurs faiblesses du moment.
D'accord. Madame, dans vos mots introductifs, vous avez parlé des sanctions qui seraient à la base de cette sortie des pays de l'AS, de l'organisation. Quelles sont les sanctions infligées par l'organisation contre ces pays-là?
Bon, les sanctions, elles ont été visibles, hein. Vous savez que depuis 2020, l'OIF a suspendu toutes ses interventions au Mali, pour ne prendre que le cas spécifique du Mali. Et ça a été le cas aussi pour le Niger et le Burkina. Donc ça veut dire que l'OIF a carrément pris parti par rapport à ceux qui ne sont pas du même bord que le Mali, tels que la CEDEAO, tels que même l'ONU, souvent qui, d'une manière ou d'une autre, s'est arrangé du côté de la CEDEAO. Donc, ces sanctions, on a vu la suspension de toutes les interventions de l'OIF. Mais maintenant, quand l'OIF a senti que le Mali n'est pas tellement dans la nécessité de toujours rester accroché aux différents financements de l'OIF, ils ont voulu revenir. Mais le Mali a dit net.
Donc, c'est raison pour laquelle les autorités disent que c'est un mépris pour leur souveraineté?
Bien sûr, c'est un mépris pour la souveraineté du Mali. Le Mali est souverain. Le Mali a fait son choix stratégique. C'est un choix raisonné. On a fait un choix raisonné. Et même maintenant, si l'OIF était réellement ce qu'il était, les quatre missions dont ils se sont pavanés pour dire qu'ils sont là pour les droits humains, pour l'intérêt des femmes, pour le droit à l'éducation. Mais ils n'ont pas respecté toutes ces volontés. Ça veut dire qu'ils n'ont vu que le côté sanction par rapport au fait que le Mali a voulu se retirer de la CEDEAO. Le Mali n'a pas accepté certains dictats de l'ONU et même de certaines nations au niveau international. Et donc les sanctions qui sont tombées pour les autorités maliennes, c'est des sanctions qui sont vraiment ne venaient pas à point nommé. Donc il fallait afficher vraiment son autorité et ce qui a vraiment conduit au retrait pur et simple du Mali de l'OIF. Et ce retrait est vraiment raisonné.
Les autorités estiment que l'organisation est devenue un instrument téléguidé. Est-ce cette organisation est politique ou apolitique?
Elle est devenue politique. Oui, elle est devenue politique vers la fin. Quand on prend les années de 1970 où elle était créée sous la forme de la CCT, l'OIF avait des visions beaucoup moins politiques. Mais vers la fin, elle s'est beaucoup instrumentée, elle est devenue un instrument politique qui est là pour sanctionner les États qui ne font pas l'affaire de, je ne veux pas citer le nom d'un pays, donc les pays qu'il défend, les pays qui sont vraiment de même bord, c'est des choix stratégiques qu'ils ont faits. C'est des choix, eux aussi, selon eux, c'est des choix qu'ils ont faits pour essayer d'imposer leur dictat. Mais ce dictat ne peut pas s'imposer à des pays qui en sont arrivés jusqu'au degré où nos autorités sont arrivées. Ils sont conscients du danger qui guettait le Mali. Le Mali a perdu pratiquement les deux tiers de son territoire, a perdu sa souveraineté. Et ceux qui sont venus pour recouvrer tous ces aspects, on ne peut pas leur imposer un dictat. Donc ces sanctions qui sont, selon les dires vraiment de nos autorités et que je trouve justes, qui sont inhumaines et dégradantes, on ne peut pas vraiment aller avec. Donc vraiment le retrait de l'OIF se justifie.
D'accord. L'AS affirme qu'elle ne pourrait coopérer avec une institution qui ne répond plus à ses attentes légitimes en termes de justice, d'égalité et d'équité. L'OIF est-elle devenue un instrument au service de la France?
Bien sûr. Bien sûr que l'OIF est devenu les États qui le composent, les États et gouvernements membres, leur intérêt est peu considéré. C'est surtout une organisation qui est là pour défendre l'intérêt de la France. Le retrait du Mali toutes les instances de la CEDEAO, le fait même de dire à la France « dégage », excusez-moi le terme, c'est vraiment ce qui a mis vraiment le feu à la poudre. Ils n'ont pas été contents de voir un pays comme le Mali, qui a été un des pères fondateurs même de la francophonie, accepter de se retirer de la CEDEAO ou bien dire non à la France. C'est pour se venger qu'ils ont pris un certain nombre de décisions, dont la suspension.
Selon la directrice de l'organisation internationale de l'OIF, l'OIF a pris ses racines au Niger.
Au Niger, a été créé comme ACCT au Niger. Ça a été créé au Niger et le Mali était membre. Le Mali était membre, le Burkina aussi. Mais si on voit qu'on en est arrivé jusque-là, ça veut dire que vraiment, on a l'impression que l'OIF, la francophonie, c'est vraiment la France. La France, soit tu es ami de la France, on reste avec vous, ou bien vous êtes ennemi de la France. Alors donc, il fallait vraiment se réserver. Et cette réserve, ils ont vu que le Mali n'est pas un valet de chambre qui va accepter tous leurs dictats.
D'accord.
Donc nous sommes vraiment d'accord avec cette décision.
Docteur Abdoul Sogodogo, est-ce que vous êtes d'accord avec cette décision selon laquelle, ou cette affirmation selon laquelle l'OIF est devenu un instrument de la France, un instrument de manipulation de la France?
C'est l'affirmation donnée dans le discours récent du ministre des Affaires étrangères du Mali que j'ai suivi avec... toute une longue démonstration en disant que les décisions qui ont été prises contre le Mali, soit au sein de la CEDEAO, que la France avait une influence derrière cette décision-là. Et dans cette perspective, on le comprend bien que le Mali avait d'autres attentes vis-à-vis de ces organisations qui n'est pas celle de la sanction. Parce qu'en fait, la crise que le Mali a vécue, la CEDEAO elle-même n'est pas préparée à cette crise-là, parce que ses interventions classiques, c'était dans des pays, quand on prend par exemple le cas de la Gambie, c'est à la suite d'élections où voilà, on vient aider à ce que on facilite la passation du pouvoir ou son intervention encore au Libéria, etc. Mais au Mali, c'est un État qui fait face à une coalition de deux acteurs, des indépendantistes et des djihadistes. Et donc, entre lesquels, la démarcation était très difficile, parce qu'on se rappelle qu'en 2013, quand même, c'est des groupes indépendantistes qui ont fait alliance avec des djihadistes pour la proclamation de l'État islamique de l'Azawad. Donc, vous voyez, donc, il y avait une proximité tellement importante entre ces deux acteurs qu'il devient difficile de faire la part des choses. Et quand vous avez l'organisation sous-régionale qui est attendue pour aider ce pays-là à sortir de cette situation particulièrement difficile, mais qui au contraire prend des sanctions en se focalisant sur la rupture constitutionnelle, qui est une vraie, une réalité, on ne peut pas le contester. Il y a une rupture de l'ordre constitutionnel. Mais est-ce que ces sanctions qui ont été prises à l'époque permettaient justement de rétablir l'ordre constitutionnel? La réponse, évidemment, était non. Donc les mesures prises par la CEDEAO n'étaient pas appropriées. Elles n'étaient pas appropriées et on ne pouvait pas les soutenir. Et on a vu effectivement le président français qui, dans un discours, disait qu'il en appelle à la CEDEAO pour que voilà, des sanctions voilà, soient prises. Donc, des discours qu'on a pu voir tous sur les chaînes de télévision, sur les réseaux sociaux. Et donc, ça fait le lien justement entre la volonté du politique français de l'époque et les actions prises par la CEDEAO. Et donc, ce qui est malheureux, parce que de mon entendement, la CEDEAO reste encore cette construction inachevée, en ce sens que c'est une organisation qui veut créer un espace démocratique. Et pour le faire, il faut se donner les moyens nécessaires pour le faire. L'un de ces moyens, c'est être capable d'intervenir dans la gouvernance des États, dans la gestion des élections, dans la lutte contre la corruption, dans le développement lui-même économique de ces pays-là. Quand vous n'avez pas ces ressources, vous n'avez pas ces moyens, vous tenez alors un bâton voilà, uniquement pour taper, mais vous n'êtes pas à la mesure, n'est-ce pas, de développer, c'est-à-dire de travailler en profondeur pour permettre au pays d'atteindre l'idéal. Voilà. Parce que le processus de démocratisation était un idéal, à mon sens, vers lequel on tend et on se donne la main et les moyens qu'il faut pour y arriver.
D'accord. Madame, vous êtes la directrice de langue nationale, de la Direction nationale de l'éducation non formelle et de langue nationale. Est-ce que vous êtes suffisamment outillée pour prendre la relève au cas où on venait d'abandonner l'utilisation du français comme langue de travail?
Je l'ai dit tantôt, on est vraiment outillée. Nous avons les 13 unités linguistiques qui sont pourvues en ressources humaines. Chaque unité a au moins, au minimum, 3 agents bien formés. Nous avons les lexiques pour les 13 langues. Mais je l'ai dit tantôt, il y a quelques langues qui sont un peu en retard.
Mais les langues qui sont en avance, est-ce que ces écritures sont connues des citoyens maliens? Est-ce que les citoyens maliens savent lire leur propre langue?
Mais nous avons un centre permanent chez nous au niveau de la Direction nationale de l'éducation non formelle et de langue nationale qui forme dans toutes les langues, dans les 13 langues officielles. Et des étudiants, des chercheurs, des travailleurs même viennent se faire former. Et ils savent lire, écrire. Et nous avons nos centres d'alphabétisation fonctionnelle. Nous avons les centres d'apprentissage féminin où nos langues sont utilisées comme médium d'enseignement. Nous avons les centres d'éducation au développement qui sont, même si ils sont pas tellement ouverts présentement, nous avons quand même les ressources qu'il faut pour... mais on a besoin quand même de plus de moyens. On a besoin de plus de moyens pour être à la hauteur de nos missions.
Est-ce que nos langues pourraient être à la hauteur de cette mission-là?
Ben oui, il faut se donner les moyens qu'il faut, le temps qu'il faut, et rien n'est impossible. Beaucoup de pays aujourd'hui font tout dans leur langue nationale. Regardez ces pays asiatiques, regardez ces pays d'Amérique, voilà, américains, voilà, les pays. Il y a des pays africains qui ont déjà franchi le pas, ou en tout cas qui sont à des étapes très avancées. Je pense là à l'Éthiopie. L'Éthiopie, vous arrivez à l'Éthiopie, tout se fait en langue éthiopienne. Voilà, voilà. Vous arrivez dans des pays comme le Kenya. Vous allez voir qu'il y a quand même des progrès énormes parce que c'est les langues qui sont les plus parlées par les populations. Il est plus facile de faire passer des messages, d'éduquer dans ces langues, de former dans ces langues-là. C'est plus facile que voilà, les langues dites un peu étrangères, même si ces langues ont quand même un ancrage très historique. D'accord. Dans nos pays.
Je vais donner 15 secondes à madame. Entre les quatre langues dont les écritures sont plus ou moins connues, notamment Unko, le Songoï, le Peul, le Tamashek, si les autorités vous demandent de choisir entre ces quatre langues, celle qui doit être la langue de travail, ça sera laquelle?
Il n'y a pas d'écriture Nko. Il n'y a pas de langue Nko. Le Nko est un système d'écriture.
L'écriture, oui.
C'est un système d'écriture. Comme le Tifina, comme le Masaba. c'est des systèmes. Donc, mais nous, on est avec l'alphabet phonétique international qui a été expérimenté depuis les premières heures de la DNAFLA, qui, où on a tous les documents qui sont présentement utilisés, sont dans l'API, l'alphabet phonétique international. Et donc, on ne peut pas automatiquement renverser la tendance.
D'accord. Malheureusement, nous n'avons plus de temps. Voilà qui met fin à cette émission, ce grand dialogue qui réfléchissait sur l'Organisation internationale de la francophonie, l'AS, qui a claqué la porte. Et nous étions avec Mme Silla Fatoumata Hamma Sissé, directrice nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales, Dr Abdoul Sogodogo, enseignant-chercheur, vice-doyen de la Faculté de sciences administratives et politiques. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir notre troisième invité qui a eu un empêchement, notamment professeur Mamadou Adia, directeur général adjoint de l'Institut de pédagogie universitaire. À la présentation, c'était Imran Akil Omega. Merci de l'avoir suivi.